T'inquiète. Non, ta maison, la maison où on te loue, où on t'adore, où l'on se rassemble en ton nom. La requête a été lue, n'a pas été lue devant les hommes. Elle a été lue devant toi. Puisses-tu agir en faveur de ta servante là où elle est. Souviens-toi de nous, selon tes promesses. Nous également, nous avons pris des engagements lorsque nous avons voulu te suivre. Mais nous avons très souvent été infidèles à nos engagements. Nous avons péché et nous te demandons de bien vouloir nous pardonner. Ne nous tiens pas rigueur. Mais tu nous as dit que si nous sommes infidèles, toi tu restes fidèle. Et c'est sur cela que nous comptons. Parle-nous encore ce soir pendant les quelques minutes que nous passons. Que tu bénisses ta servante qui a besoin de ton intervention. Que tu l'aides dans sa santé. Non seulement elle, mais tous ceux qui sont malades, qui ont besoin de pouvoir bénéficier de ces choses acquises de haute lutte à Golgotha autrefois. Te remercions pour cela. Nous nous rappelons que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Nous nous rappelons également que tu t'es chargé de nos souffrances, ainsi que de nos douleurs. Que ta grâce soit sur chacun d'entre nous ce soir. Te remercions pour tous les projets de bonheur que tu as établis sur nous. Nous savons que si tu les as établis, c'est afin de les exécuter. Sois béni, sois loué, que ton nom soit au-dessus de toute louange. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons parlé. Amen. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 8. Verset 23. À 27. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Pour nous asseoir. Pouvons commencer le sujet d'aujourd'hui en posant la question ceci. Savez-vous qu'il est avec nous? Savez-vous qu'il est dans notre barque? C'est ça le problème. Il y est. Et la barque, elle est soumise, n'est-ce pas, au vent, à la mer, aux tempêtes différentes par lesquelles nous devons passer. Et pourtant, il est là dans la barque. Nous allons voir, est-ce qu'il dort? Ou est-ce qu'il veut tout simplement rester silencieux? Mais nous savons que dans sa chair, il était homme comme vous et moi, sujet à la fatigue. La seule chose, il a été tenté par toutes sortes de moyens, mais il n'a jamais succombé. C'est la différence avec nous. Mais dans sa chair, il pouvait dormir. Fatigué d'avoir prêché toute la journée, il pouvait dormir. Beaucoup de maladies étaient guéries ce jour-là. Il a dû parler à la foule. Comme dit le frère, de la vertu est sortie de lui. Nous allons essayer de le réveiller. Notre solution, lorsque les tempêtes soufflent, les tempêtes s'abattent, sachons qu'il est dans la barque. Quand la barque est secouée, elle va d'un côté à gauche, d'un côté à droite. Le message, c'est n'ayez pas peur. Jésus est dans la barque. En tant que Dieu, il ne dort jamais. Psaume 121. Si nous savons que Jésus-Christ est le Jésus-Christ du Nouveau Testament et le Jéhovah de l'Ancien Testament, il est dit ceci du Jéhovah de l'Ancien Testament, l'Éternel, dans le psaume 121. Lorsqu'on a besoin d'être secouru, cantique des degrés, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Il se pose la question. Le secours dont j'ai besoin là maintenant, il peut venir d'où? De l'assemblée? Des frères, des sœurs? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. D'abord, une chose, il ne permettra point que ton pied chancelle. Dites amen à ça. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. Il est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Pas seulement ta chair, mais garde ton âme également. Garde ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Ça veut dire que dans la barque, ils avaient tout ce qu'il leur fallait pour ne pas sombrer dans la panique ni dans la peur. Nous également, ce soir, nous sommes appelés à ne pas paniquer quand nous sommes dans la barque. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Frère Adam parlait, lorsqu'il parlait de la résurrection du Seigneur, il a parlé de la mécanique, de la puissance vivifiante, pour ceux qui aiment le dire en anglais, le quickening power, la puissance qui vivifie. La mécanique, c'est la parole de Dieu. Nous l'avons. Elle est là, nous l'avons. Lorsqu'on a reçu la parole, La parole pure, celle qui sort de la bouche de Dieu, on a la mécanique. C'est ce qu'il nous faut. C'est pas tout. Maintenant, cette mécanique, on doit la mettre en marche. Amen. Cette parole n'est pas juste une lettre qui doit rester soit dans la tête, soit même en nous. Mais cette parole, elle doit être en marche. Le frère disait, la mécanique, c'est une bonne chose. S'il n'y a pas la dynamique qui est le Saint-Esprit, la mécanique peut être correcte. Mais Jésus dit, ça ne nous sert à rien. Jean 6. C'est l'esprit 63, pardon. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. L'apôtre va jusqu'à dire la lettre tue. Pourtant, c'est la bonne mécanique. Quand quelqu'un achète sa voiture et me demande, frère, tu veux bien venir prier, je viens d'acheter ma voiture. Première, une des choses que je lui dis souvent, fais attention avec cet engin. Que ça peut t'amener à être infirme un jour. Cet engin peut t'amener dans la tombe. Cet engin peut faire quoi que ce soit. Pourtant, c'est un beau machin que l'on a, dont on en est fier même parfois, qui est là. Et ceux qui sont venus en voiture, ils sont sûrs d'une chose. Leur voiture est là, mécaniquement bien. Il y a là le Saint-Esprit, la puissance, l'énergie que vous dites, l'essence ou l'électrique ou que sais-je, y est, mais la voiture, elle est là. Maintenant, pour pouvoir entrer chez vous tout à l'heure ou aller ailleurs, encore faut-il mettre la voiture en marche. Et amen à ça. Ouais. Et bien que l'essence y est, ou l'électricité y est, c'est une voiture électrique. Ou si on a le diesel y est, que sais-je. Il faut quelque chose, un détonateur, pour que la machine puisse se mettre en branle. Dieu donne la mécanique. Dieu a promis la dynamique. Amen. C'est la promesse du, c'est la promesse du Père. Maintenant, pour que cette mécanique, vous avez votre voiture pour qu'elle vous amène d'un point A à un point B, quand vous en avez besoin. Mais la mécanique que Dieu envoie, c'est pour nous guérir de nos maladies. C'est pour nous libérer de nos liens. C'est pour nous délivrer des démons. Non seulement cela, c'est aussi pour nous protéger. Oui. C'est pour cela que Dieu nous envoie la mécanique. Toutes les promesses relatives à ce dont nous avons besoin se trouvent là-dedans. Et comme si ça reste juste la lettre, ça ne nous sert à rien. Dieu nous envoie le Saint-Esprit. On a déjà chanté ici plusieurs fois, le Saint-Esprit est là. Ça va? Nous savons, parce que vous savez qu'il est là. Sinon, on ne le chante plus alors. Nous savons que le Saint-Esprit est là. Donc, nous avons et la mécanique et la dynamique. Qu'est-ce qu'il nous faut pour que ma voiture qui est dehors démarre? Il suffit pas que la mécanique et la dynamique soient là. Encore faut-il que j'ai la clé. On appelle clé de contact. Et voilà, on parle de l'étincelle. Parce qu'en son temps, c'était les moteurs thermiques. Les moteurs électriques n'existaient pas encore. Mais l'étincelle qui fait démarrer le moteur, c'est de cette étincelle-là que nous avons besoin. Sinon, aussi belle que soit la mécanique, autant qu'il y ait le plein dans le réservoir, sinon, cette voiture ne nous sert à rien. Alors, qu'est-ce qui met cette mécanique en marche? On revient dans Matthieu 23. Dans Matthieu. D'abord, avant d'en revenir dans Matthieu 8, allons dans Matthieu 28. Jésus-Christ nous dit ceci. Dans Matthieu 28, verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, la mécanique. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est dans la barque. Les vents peuvent souffler. Les tempêtes peuvent s'élever. Toutes ces choses peuvent arriver. Jésus-Christ est dans la barque. Celui qui fait taire les vents, il est dans la barque. Les vents sont nos combats. Les mers sont les foules. Quelle que soit la nature des combats que nous avons, ce dont nous avons besoin, le Saint-Esprit aussi est là. Il a dit que le Consolateur viendra. Il a dit que lui et le Père seront en nous. Il l'a dit. Donc, tout ce qu'il nous faut pour que la machine fonctionne, nous l'avons. Cette mécanique est là, pleine de dynamique. Cette étincelle pour faire démarrer, il dit ceci aux disciples, dans Matthieu 8, on l'a lu assez vite. On va le relire un peu lentement. Verset 24. D'abord, verset 23, nous voyons bien qu'il est dans la barque. Ça va? Il est monté dans la barque. Au verset 24, il nous est dit, il se leva sur la mer une si grande tempête. Ô Seigneur, viens à mon secours. David pose la question, D'où me viendra le secours? Il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, celui qui calme tout ça, il est là. Il dort. Le prophète dit ceci, réveillez-le. Réveillez Jésus. Placez le contact. Utilisez le contact. Et lui, le reproche. D'abord, les disciples s'étant approchés, le réveillèrent. C'était la chose à faire. Et dire, Seigneur, sauve, nous périssons. C'était la chose à demander. Maintenant, il ne leur reproche pas le fait qu'il lui demande. Il leur reproche d'avoir peur. De quoi as-tu peur? Tu vas rentrer chez toi, ta voiture elle est là. C'est sûr que tu vas rentrer chez toi. Si c'est pas le bus, tu sais très bien que le bus roule. Il a actionné pour que ça roule. Le jour où ils font la grève et que les bus ne roulent pas, vous ne savez pas vous déplacer non plus. Alors, ce qu'il leur reproche, il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Vous savez, dans Romains 8, il nous est dit que l'esprit qui était en lui, on va lire, hein, Romains 8. Verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Si on regarde bien le cas du Seigneur, on ne peut pas dire, on peut prendre cette affirmation, pardon, il dormait parce qu'il était réveillable. Ça va? C'est un peu, si on prend le type d'Adam, où Dieu le plonge dans un profond sommeil. Quand il le réveille, donc il le réveille, Adam se réveille. Ce qui fait que Christ est réveillable. Le monde essaie de vous dire, il est mort, il est là, il est là, d'accord, mais si on vous dit qu'il est là, il est quelque part, essayez de le joindre. Lui, il a promis d'être dans votre barque tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette étincelle, Jésus nous fait comprendre que nous devons l'avoir. Et il l'avait, mais il ne savait pas comment la faire fonctionner. Parce que dans Jean 6, Pierre va dire ceci au Seigneur. Et beaucoup savent qu'ils l'ont parfois, cette étincelle. Mais c'est comme si vous aviez la clé de contact de votre voiture et vous vous plaignez que vous devez aller à tel endroit et vous ne savez pas y aller. Vous avez du carburant, vous avez la voiture, vous avez la clé. Entrez dans la voiture et actionnez. Dans Jean 6, Pierre lui dit ceci. Verset 68. Ou verset, on peut commencer au verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Si vous lisez plus haut, vous verrez que parmi ses disciples, il est dit qu'ils ont cru en lui. Même dans Jean 8, c'est pareil. Ils ont cru, mais à un moment donné, ça va décrocher. Jésus donc dit aux douze, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et nous avons cru, ils avaient la foi. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Si je demande ici, qui croit que Jésus-Christ est Dieu, toutes les mains vont se lever. Si je demande ici, qui croit que Jésus-Christ peut calmer sa tempête, toutes les mains vont se lever. Alors, qu'est-ce qui fait que cette tempête ne se calme pas? C'est cette question de foi. La foi véritable. Le prophète parle de la foi parfaite, mais la foi, elle doit être parfaite. Quand il y a du doute, ce n'est plus la foi. Et vous savez que Jésus-Christ étant là, les disciples l'ont fait. Hein. Je crois que c'est dans Marc 11, mais ce n'est pas ce que je voudrais lire. Dans Hébreux 12, verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Pendant que vous courez, ayez le regard sur Jésus. Surtout, ne regardez pas à la tempête. C'est ce qui nous fait perdre notre foi. Mais quand vous regardez à Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il suscite la foi. La foi dont vous avez besoin pour mettre en branle les promesses qui sont là et que vous avez reçues. Il suscite la foi et lui-même, il amène à la perfection. Dites amen à ça. La foi parfaite. De vous-même, vous n'arriverez pas à avoir cette foi parfaite. Mais celui qui suscite la foi pour vaincre les tempêtes qui vous accablent, il est là avec vous dans la barque. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pierre et Jean, quand ils allaient au temple pour la réunion de prière, on en aura une vendredi, c'est le premier vendredi du mois. En allant au temple, est-ce qu'ils savaient qu'ils allaient rencontrer un paralytique? Ils ne savaient pas. Ils y allaient pour la prière. Donc, ils n'avaient pas encore prié. Ils n'avaient pas prié chez eux, disant, « Seigneur, Si nous rencontrons un paralytique, un boiteux de naissance, aide-nous. Non. Ce qui se passe, c'est que la machine que Dieu avait placée en eux et confirmée avec la dynamique qui est descendue le jour de la Pentecôte, ils savaient, ils allaient juste pour prier, mais ils rencontrent cet homme à la porte appelée la Belle. Je crois que ce n'était pas la première fois qu'ils y allaient. Est-ce qu'ils avaient déjà vu cet homme? Est-ce qu'ils ne l'avaient pas vu avant? Je n'en sais rien. Mais ce jour-là, ils montaient ensemble à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait, qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Et il nous a dit qu'ils étaient assidus au temple. Amen. Donc, quelque part, peut-être, il y a de fortes chances qu'ils connaissaient cet homme, du moins de vue. Ce jour-là, c'était particulier. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous », et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » La mécanique qui nous est donnée, elle est complète. Hein. Il ne manque pas une pièce. Le nom du Seigneur nous est donné. Vous savez ça. Nous avons ce nom, il nous est donné. C'est à nous. Hein? 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné. Dites amen. Amen à ça. Parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Donc ce nom, il l'avait. Si vous êtes un racheté, ce nom, vous l'avez. Si la tempête souffle, c'est valable pour moi, pour nous tous. Si la tempête souffle, nous avons les moyens de calmer la tempête. Sinon, comme Paul plus tard dans Acte 27, il ira avec la tempête jusqu'au bout, mais ça n'a pas attenté à sa vie. Il a perdu des biens, c'est rien ça. Nous avons lu dans le psaume 121, il est le gardien de nos âmes. Et justement, quand les gens vont le voir, verset 9, acte 3, verset 9, vont voir cet homme à la porte appelée la Belle, tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Pierre va leur dire ce qu'il en est exactement. Pierre va leur dire, « Je n'ai aucune puissance. Mon frère Jean, ici présent, n'en a pas non plus. » Verset 12, « Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Il dit, c'est par la foi. C'est par la foi. Ils avaient le nom, dit Abel ensemble. Il y avait le Saint-Esprit. Tout était là. Maintenant, la foi de ce nom. La foi en ce nom.
C'est ça le contact. C'est ça l'étincelle. Quand cette étincelle jaillit, le moteur se met en marche. Les actes des apôtres se réalisent. Les boiteux marchent. Les aveugles voient. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Ce nom était là depuis longtemps, mais il a fallu donner la foi en ce nom. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Vous savez, quand les apôtres ont été baptisés du Saint-Esprit, ce qui est remarquable, c'est que il est souvent question de ce baptême du Saint-Esprit et de leur foi. Quand on choisit le diacre, ils prennent Étienne. Acte 6. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable, que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Pour les tables, pour des problèmes de table, pour certains problèmes de ce genre, ce n'est pas du pasteur que vous avez besoin. Ce n'est pas du prédicateur que vous avez besoin. Il y a moyen d'arranger cela. Pourquoi ? Parce que et la mécanique et la dynamique vous est donnée. Pas seulement aux prédicateurs, pas seulement aux pasteurs. Vous aussi, vous l'avez. Le nom de Jésus-Christ, vous l'avez. Tout ce qu'il y a. Bref, on n'en est pas là. Oh, c'est pas grave. Jésus est dans la barque. La question n'est pas de savoir si Pierre est là ou Jean. La question est de savoir si Jésus est dans la barque. Verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint, et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous, nous continuons à nous appliquer à la prière au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint. C'est bien l'Esprit Saint de l'avoir, mais encore faut-il recourir à votre foi. Le juste, il vit par la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu. Il y en avait encore un, je crois, il y avait Barnabas aussi, où il est dit de lui, plein d'Esprit Saint et de foi. Et acte 11... Verset 21. La main du Seigneur était avec eux, avec ceux qui annonçaient la bonne nouvelle du Seigneur. Et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. C'est Jésus-Christ qui dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, et vous le verrez s'accomplir. Il ne parle pas de l'Esprit Saint, il parle de la foi que vous avez. C'est ça le contact, la clé de contact, l'étincelle qui fait que la parole se met en marche. Sans la foi, on ne saurait pas être agréable à Dieu. Et donc, sans cela, c'est tout simplement impossible. Ou si nous revenons dans ceci, il est là. Il est en nous. Et comme il est en nous, c'est un peu la parole qui s'est fait chair en nous. Avec la parole que nous avons reçue, si c'est la parole de Dieu. Il arrive que nous dormions, que cette parole dorme. Elle est bien là. Les promesses sont bien là. Donnez-moi un de vos besoins dont qui ne rencontre pas la parole de Dieu. Tous vos besoins, on le chante, hein? Tout ce dont j'ai le besoin se trouve en sa main. Tous les besoins sont là. Il n'y a aucun besoin qui soit au-dessus de la parole de Dieu. Et il est où ce besoin? Il n'est pas seulement dans le prédicateur, il est en vous aussi. Il est avec vous aussi. Il est là, à côté de vous. Réveillez-le. Ce qui le réveille, c'est la foi. Ce qui le fait parler, c'est la foi. La femme syrophénicienne, elle était là. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ce n'était pas pour elle. Mais elle a eu vent de la mécanique et de la dynamique ce jour-là. C'était avant que l'Esprit ne soit donné. C'est Jésus-Christ qui vivait cette parole-là devant eux. Il disait, la parole rend témoignage de moi. On lui dit, renvoie-la parce qu'elle nous embête avec ses cris. Jésus dit, je ne suis venu, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et la donner aux chiens. Oui, Seigneur, c'est vrai, mais les chiens mangent les miettes. Femme, à cause de cette parole. Il n'y a pas qu'elle. Hein? On peut prendre le centenier. Jésus dit, ok, je vais avec toi. Il dit, Seigneur, je sais qui tu es. Moi, je suis officier. J'ai des militaires sous mes ordres. Quand je leur dis, va, ils vont. Quand je leur dis, viens, ils viennent. Toi, je sais que si tu dis seulement une chose, Jésus dit même en Israël, je n'ai pas rencontré une telle foi. Vous avez la dynamique. Moi, je ne peux pas vous aider pour vos besoins. Si je pouvais, tout ce que j'essaie de faire, c'est augmenter, c'est nous aider à augmenter notre foi. Les disciples ont demandé au Seigneur, « Seigneur, augmente-nous la foi. » Que cela soit notre demande également. J'aime bien ce verset. Quand ils ont vu que c'est quelque chose d'important, ils en ont fait la requête. « Augmente-nous la foi. » C'est comme quand vous demandez, je vous le dis souvent, quand vous demandez la patience, Dieu a entendu il vous enverra la patience. Maintenant, ce n'est pas juste que Dieu vous envoie la patience et ne vous envoie pas la foi si vous la lui demandez. Ça va? Parce que la foi, on l'obtient comment? Par l'épreuve. Et la persévérance, pardon, la patience, on l'obtient par l'épreuve de la foi. On l'obtient par l'épreuve. Alors, il vous éprouve pour vous donner la patience. Ça, c'est à tel point que parfois, on peut avoir peur de demander à Dieu de la patience. Parce que ça montre que je vais être éprouvé. Parce que quand Dieu éprouve, ce n'est pas de la rigolade. Hein. Par contre, si je lui demande la foi, il peut aussi me donner la foi. S'il peut donner la patience, il peut donner la foi. Parce que la foi, c'est la base, en fait, dans la stature d'un homme parfait. C'est par là que ça commence. Que Dieu vous bénisse. Il est dans votre barque. Il subit les tempêtes que vous subissez. Les vents qui soufflent sur vous, qui vous font balloter à gauche, à droite. Il est subi, il est vie, il est là avec vous. Il n'enlève pas les vents. Mais il vous aide à surmonter cela. Seigneur, j'ai tel problème. Si tu ne veux pas l'enlever, donne-moi la grâce de passer par-dessus. Sans plus me plaindre. Sans plus me lamenter. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous venons à toi, constatant que lorsque nous périssons, Jésus-Christ est bien là, au-dedans de notre barque. Surtout qu'il nous l'a promis, il a dit, qu'il sera avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc il est là. Cette parole, elle est là. Peut-être qu'elle dort. Elle dort en nous. Tout ce que nous voulons, c'est la réveiller. Donne-nous, accorde-nous cette foi qui la réveille. De manière à ce qu'elle agisse et qu'elle fasse ce dont pourquoi elle a été envoyée. Telle est notre prière ce soir. Bénis tes enfants. Viens en aide à ceux qui en ont besoin. Viens à leur secours. Leurs regards sont tournés vers toi. Selon ce que l'apôtre dit, pendant que les regards sont tournés vers toi, tu suscites la foi et tu l'amènes à la perfection. C'est sur cela que nous comptons. Sans celle, sans la foi, il est impossible de t'être agréable. Assiste chacun d'entre nous. Et là où nous doutons, ou bien là où nous paniquons, là où nous avons peur, alors que tu nous as promis une réelle protection, pardonne-nous. Pardonne-nous pour nos doutes. Pardonne-nous pour la panique que nous avons. Merci de nous avoir rassemblés ce soir. Pour ces quelques mots qui ont été dits, aide-nous à bien ajuster notre marche, sachant que Jésus-Christ est là au milieu de nous. Tout ce qu'il y a, nous voulons le réveiller. De la parole écrite, de la parole lue, à la parole agissante. Plus tranchante qu'une épée à double tranchant. accompagne chacun de nous dans sa maison. Et si tu tardes à venir, nous nous attendons à toi pour ce vendredi, qui est aussi un jour de rassemblement. Puissions-nous venir à cette réunion de prière comme Pierre et Jean allaient à la réunion de prière. Et si nous rencontrons des boiteux de naissance, spirituellement ou physiquement, oh Dieu, et que nous voyons qu'ils ont suffisamment de foi, comme cet homme que Paul avait vu, voyant qu'il avait suffisamment de foi en lui pour être guéri. Il l'a guéri. S'il y en a un qui peut mettre cela en marche, que tu nous assistes. Te remercions. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, t'avons prié. Amen.